RFI, il est 8h30, à Paris 6h30, en temps universel. L'actualité africaine avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Réforme du système politique, de la constitution ou encore du pouvoir accordé à la présidence au Mozambique. Après 4 mois de crise post-électorale, le Parlement a voté hier une loi dite de pacification. Un texte adopté à l'unanimité. 4 pays au programme de la première tournée africaine de Massad Boulos, le tout nouveau conseiller de Donald Trump pour le continent. Première étape en République démocratique du Congo, où il doit rencontrer ce jeudi le président Félix Tshisekedi. À quelques jours maintenant de la présidentielle gabonaise du 12 avril, RFI donne la parole à chacun des candidats. Ce matin, une candidate, la seule, Zenaba Ninga Chaning, explique pourquoi elle brigue la magistrature suprême. Les derniers développements de la guerre au Soudan et des combats à l'avantage de l'armée répertoriés dans le Kordofan du Nord. On en parle également avec notre invité Souleymane Baldo juste après ce journal. Et puis le dossier de ce journal à Cotonou qui s'apprête à recevoir les jeunes pousses de l'humour africain pour la 5e édition du festival Mon Premier Montreux d'Afrique. Au Mozambique, après des mois de crise post-électorale successive au scrutin du 9 octobre dernier qui a fait au moins 360 morts, le Parlement a donc voté hier une loi pour tenter de pacifier le pays et d'éviter toute nouvelle instabilité politique en proposant des réformes structurelles profondes. Depuis Nairobi, la correspondance régionale de Gaël Lalex.
C'est à l'unanimité et avec acclamation que la loi pour la pacification du pays a été adoptée. Pour Félix Sylvia, président du groupe parlementaire du Frelimo, le parti présidentiel, ce texte représente une occasion sublime de participer au renouvellement du Mozambique. Pour le parti Podemos, ancien soutien du candidat malheureux à la présidence, Venancio Mondlane, ce texte représente un geste de réconciliation et un nouveau pacte démocratique. Bien que la Renamo, opposante historique du Frelimo, ait voté le texte, elle reste sur ses gardes. Une fois transformé en loi, il ne doit pas donner au gouvernement une nouvelle occasion de décevoir le peuple, prévient le député Jeronimo Malagueta. La loi pour la pacification propose une transformation profonde de l'État mozambicain, comprenant notamment une réforme de la constitution, du système politique, des pouvoirs du président, mais aussi la dépolitisation des institutions et plus de décentralisation. Venancio Mondlane, qui revendique toujours sa victoire à la présidentielle, ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Il avait été exclu des discussions du 5 mars, mais a depuis rencontré le président Daniel Chapu. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
3 jours après sa nomination, Massad Boulos, le nouveau conseiller spécial du président américain Donald Trump pour l'Afrique, est déjà en tournée sur le continent. Il est attendu ce jeudi en République démocratique du Congo. Il doit s'entretenir avec des chefs d'entreprise, mais aussi avec le président Félix Tshisekedi. Sécurité et affaires seront donc au programme, Guillaume Nodin.
Aussitôt nommé, aussitôt envoyé sur le terrain pour assumer ses nouvelles fonctions. Le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump, qui continue à exercer le même rôle pour le Moyen-Orient, commence sa tournée à Kinshasa. Il est accompagné par la secrétaire d'État adjointe chargée de l'Afrique, Corinna Sanders. Le duo doit rencontrer des chefs d'État et des chefs d'entreprise pour faire avancer les efforts en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et pour promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région, dit le communiqué du département d'État. Au cours de ces entretiens, il sera question du conflit armé dans l'Est de la RDC qui a conduit le mouvement armé AFCM-23, soutenu par le Rwanda, à prendre le contrôle de larges parties du territoire de la RDC, dont les villes de Bukavu et Goma. L'administration Trump s'intéresse de près à ce conflit et elle a déjà pris des sanctions contre des responsables rwandais et congolais de l'alliance Fleuve Congo. Depuis plusieurs semaines, des discussions existent entre les États-Unis et la RDC pour des partenariats en vue de l'exploitation des minerais congolais, dont une partie se trouve dans les territoires contrôlés par le M23. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Massad Boulos et Corinna Sanders qui, après la RDC, doivent poursuivre leur tournée au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Et puisqu'on parlait de Donald Trump, sachez que le président américain a décidé hier soir de la mise en place de droits de douane imposés à la quasi-totalité des pays du globe. La Chine et l'Union européenne sont particulièrement visés par ces mesures. Et sur le continent, les produits malgaches seront taxés à 47%, 30% pour l'Afrique du Sud en froid. Avec Washington, on en parle également ce matin. encore 50% pour le Lesotho, 11% pour la RDC et le Cameroun, 13% pour le Tchad. La BEAC remet des nouvelles pièces dans la machine. Hier, la Banque des 6 États de l'Afrique centrale a lancé la mise en circulation d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie. Volonté de modernisation de ce système dans la sous-région, mais aussi d'une certaine forme de continuité des moyens de paiement en espèces au sein de la CEMAC. La nouvelle était attendue et a été plutôt bien accueillie. C'est le cas en tout cas à Brazzaville, comme nous le dit notre correspondant Loïcia Martial.
C'est le gouverneur de la BAC, Yvan Sana Bangui, qui a lancé cette nouvelle gamme de pièces de monnaie. En visioconférence depuis Bangui, la capitale centrafricaine. Une initiative très attendue à Brazzaville.
La monnaie est vraiment la bienvenue parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes ici.
Dans les marchés et dans la circulation, les déplacements, on a souvent la pénurie sur le problème des pièces. Au moins là, le problème des pièces sera réglé.
Oui, c'est une très bonne chose. On sait qu'il y avait maintenant rareté des pièces de monnaie dans notre sous-région et c'est qui souvent créait même des disputes entre acteurs économiques parce qu'il y en a qui se retrouvaient sans petite monnaie pour rembourser. Et donc, c'est une très bonne nouvelle qui va certainement conforter les usagers que nous sommes.
La nouvelle gamme comprend des pièces de 200 francs CFA, mais leur introduction suscite des interrogations, notamment chez l'analyste économique Alphonse Ndongo, qui craint une hausse des prix, en particulier dans les transports.
Oui, pour moi, la pièce de 200 francs pose quand même problème dans la mesure où elle crée une espèce d'inflation mécanique.
La BEAC prévoit d'injecter 500 millions de francs CFA en pièces par an pour atteindre 3 milliards de francs CFA en 2030. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Radio France Internationale, 7h36 à Libreville, moins de 10 jours désormais. Avant l'échéance présidentielle au Gabon, l'occasion pour RFI de donner la parole à l'ensemble des 8 candidats à la magistrature suprême. Brice Clotaire-Oligui Nguema et Claude Billy Binzé étaient présents sur nos antennes la semaine dernière. Ce matin, c'est à la seule femme en lice qu'RFI tend son micro, Zenaba Ninga Channing, chef d'entreprise de 36 ans, qui le 7 février dernier avait été la première à se déclarée officiellement candidate. François Mazet lui a demandé pourquoi elle souhaitait accéder à la présidence de son pays.
Déjà, ce serait une nouvelle classe politique, une personne qui est totalement différente du système, qui n'a ni appartenu au système PDG, ni au système actuel. C'est de dire aux Gabonais qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle classe politique qui se met en place parce qu'ils ont réellement des convictions pour le Gabonais. Et de dire aux Gabonais qu'aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle personne qui s'est levée et on va changer les conditions de vie des Gabonais pour qu'ils soient plus épanouis dans leur pays. Un pays aussi riche ne peut pas avoir autant de pauvres. Pour mon programme, je pense qu'il faut arrêter d'assouvir les Gabonais. Il faut arrêter de rendre les Gabonais pauvres, mettre des mécanismes en place pour pas justement avoir des gens qui ont été mis volontairement comme ça dans la souffrance. Je pense qu'il faut développer le secteur privé. Vous savez, aujourd'hui, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde à la fonction publique. Il faut savoir que la fonction publique aujourd'hui, même si on met des mécanismes pour embaucher, ils ont essayé d'intégrer beaucoup de monde dans la fonction publique, mais ça ne marche plus. Il faudrait mettre des possibilités au pays, chercher des investisseurs, trouver des Gabonais sur place capables, justement d'ouvrir des entreprises privées pour embaucher le maximum de Gabonais.
Zenaba Ninga Channing avec François Mazet. Je rappelle que la présidentielle est fixée au 12 avril prochain. Pour en savoir plus, l'intégralité des entretiens des candidats avec leurs motivations et leurs programmes sont à retrouver dans un article spécifique sur notre site internet rfi.fr. Et chaque jour dans Afrique Soir à 18h30, temps universel, 19h30, heure de Libreville. Au Soudan, un collectif d'avocats et un comité de résistance qui répertorie régulièrement les avancées de la guerre ont imputé au FSR sur la semaine écoulée différentes attaques au sud de Khartoum, des attaques qui ont fait au moins 85 morts parmi les civils selon ces mêmes sources, des paramilitaires qui semblent subir de lourdes pertes face à l'armée depuis le début de l'année. Les hommes du général Al-Burhan contrôlent désormais les états de Sennar, d'Al Jazeera et du Nil Blanc ainsi que la capitale. Et ce mardi, de nouveaux combats ont eu lieu autour de la ville d'Al Obeid, au Kordofan du Nord. Le récit d'Ouda Ibrahim.
Al Obeid, ville clé du Kordofan du Nord dans le sud du pays. Encerclée par les forces de soutien rapide depuis le début de la guerre, en 2023, l'armée a pu briser son siège en février dernier. Depuis, elle est la cible des bombardements permanents des FSR. Ce mardi, tôt le matin, soutenus par des troupes qui se sont retirées de Khartoum, les FSR ont attaqué Al Obeid. Mais elles ont été stoppées à l'ouest de la ville où elles ont subi de lourdes pertes selon l'armée. Par ailleurs, au Kordofan du Sud, les FSR ont attaqué lundi Khor Dib, mais l'armée a annoncé ce mercredi qu'elle avait repris cette localité. Malgré cette série de pertes, le numéro 2 des FSR, Abderrahim Daglu, a menacé d'attaquer l'État du Nord du Soudan ainsi que l'État du Nil. Il a affirmé dans une vidéo où il apparaît entouré de ses hommes que 2000 véhicules se dirigeaient vers cet État. L'armée contrôle désormais la majorité du territoire soudanais et affirme que ses forces se préparent à la reprise du Darfour. Hormis la ville encerclée d'Al-Fashir, les 5 États du Darfour sont aux mains des FSR.
Ouda Ibrahim et cette situation au Soudan, on y revient plus en longueur juste après ce journal avec notre invité, le chercheur Souleymane Baldo, également fondateur du centre de réflexion Sudan Policy and Transparency Tracker. Il est l'invité de Christophe Boisbouvier. Puis le dossier de ce journal depuis Cotonou où s'ouvre à partir d'aujourd'hui le festival Mon Premier Montreux d'Afrique à la recherche des pépites humoristiques du continent. Plus de 300 projets ont été envoyés à cette année au jury et seuls 20 humoristes d'une dizaine de pays ont été retenus pour les demi-finales. Présentation de l'événement avec Jean-Luc Aplogan.
Les organisateurs positionnent leur événement comme un tremplin pour les nouveaux talents du rire en Afrique. Nous sommes à la 5e édition avec un engouement croissant au fil des ans. Cotonou est la dernière étape avant la finale. Étienne Ventura, producteur et directeur du projet, résume le long processus de sélection.
On commence avec 360 candidats, puis 20 demi-finalistes, puis 8 finalistes, puis un ou une grand gagnant qui est invité à jouer à Montreux Comedy Festival, qui est le plus grand festival d'humour francophone aujourd'hui en Suisse. Et on est à la recherche de ceux et celles qui composent la relève de l'humour africain.
Ludivine Bonjou, directrice artistique du festival, a supervisé ce travail de tri. Elle apprécie les sketchs retenus à ce stade.
On a beaucoup de thématiques différentes et c'est surtout de nouvelles thématiques qui viennent. Il y a de très belles promesses dans les 10 pays.
Des Béninois composent le jury qui va élire les 4 finalistes. Les 20 demi-finalistes viennent d'une dizaine de pays africains. 2 Béninois sont dans la course, les humoristes Sam du Barça et Corélias, très optimiste.
Le Bénin, on a déjà remporté 2 fois. Nous sommes le pays organisateur.
Vous ne pouvez pas perdre à la maison, c'est ça?
Nous ne sommes pas les guépards du Bénin. Voilà, non, on sait Gaï, mais ne passez pas ça à l'antenne.
Tacle d'humoriste, il est pour l'équipe nationale de football du Bénin, jamais champion ou finaliste d'une compétition africaine. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et je vous propose d'écouter l'avis de l'une des lauréates du festival, Khadijat Issotina, alias Kadi. C'était lors de la 3e édition. Ce matin, elle dresse un état des lieux optimiste de l'humour béninois, encourage les jeunes à se lancer et demande encore plus d'aide de la part de l'État.
Les humoristes béninois travaillent véritablement à nous produire de beaux spectacles, bien écrits, bien joués. On fait un peu de tout. Moi, je fais par exemple de la dérision, de l'autodérision. Je suis un peu trash. Il y a des humoristes qui ne parlent que d'eux. Ils se moquent d'eux-mêmes. Et il y a des humoristes qui parlent de ce qu'ils voient autour d'eux. Et ça me fait également rire. Du sarcasme, oui. De l'humour noir, oui. Et c'est ça qui fait la beauté de notre humour. Aujourd'hui, dans l'humour béninois, nous pouvons citer tellement d'humoristes et nous en sommes tellement fiers. Nous avons Kongi de Porte Nouveau, le sergent Kongi, Sam du Barça, Venance Jap, qui a été également lauréat avant que je ne sois lauréat du Montreux, Pacheco. La liste est longue. Il n'y a personne qui a encore fait une école d'humour au Bénin, à ce que je sache pour le moment. On ouvre des comédie clubs, dans des restaurants. On essaie de tester nos blagues sur le public qui vient manger. On a vraiment besoin d'un coup de pouce de l'État. On a beau avoir des concours qui viennent nous booster, nous motiver à travailler. Si après, on n'a pas une scène où continuer à travailler, ce serait peine perdue.
Khadija Issotina, alias Kadi, au micro de Jean-Luc Aplogan, qui signe le dossier de ce journal. Vous le retrouvez évidemment sur notre application RFI Pure Radio, mais également sur notre site internet rfi.fr. La suite d'RFI Matin, tout de suite avec Marion Cazenove.